Chapitre 5. Le professeur avait pris une rue à gauche. Il se redressait et le cou raide fendait la foule dont toutes les têtes dépassaient sa chétive stature. Il ne pouvait se défendre d'un peu de déception, mais ce n'était là qu'un sentiment superficiel, son âme stoïque étant incapable de se troubler pour un échec, quel qu'il fût. Un jour ou l'autre, un coup retentissant serait porté, de quoi jeter l'alarme pour tout de bon, un coup capable d'ouvrir la première brèche dans l'imposante façade du grand édifice des conceptions légales qui abritait l'atroce injustice de la société. D'humble extraction et d'un physique assez insignifiant pour faire obstacle à ses capacités naturelles, le professeur avait de bonne heure enflammé son imagination à lire la carrière d'individus qui s'étaient élevés des bas-fonds de la misère jusqu'à des situations qui leur donnaient la puissance et la richesse. La pureté presque ascétique de son âme, alliée à une extraordinaire ignorance des conditions de l'existence, lui avait fait concevoir un idéal de pouvoir et de prestige qu'il croyait être incapable d'atteindre sans le secours des arts, des grâces, du tact et de la richesse, par le seul moyen de son mérite. Considérant les choses sous ce point de vue, il s'estimait qualifié pour un succès incontestable. Ce sont les impulsions personnelles déguisées en croyances qui préparent les voies aux révolutions les plus justifiables. L'indignation du professeur trouvait en elle-même une cause finale qui l'absolvait du crime d'avoir recours à la destruction pour en faire l'agent de son ambition. Détruire la foi publique dans la légalité était la formule imparfaite de son fanatisme pédant. Mais il conservait précise et correcte la conviction intime que la charpente d'un état social établi ne peut être effectivement démolie que par une forme quelconque de violence collective ou individuelle. Il était un facteur moral. Rien n'eût déraciné de son esprit cette opinion. Perdu dans la foule, le professeur misérable et rabougri méditait avec confiance sur l'étendue de son pouvoir, la main gauche tenant légèrement dans la poche de son pantalon la poire de caoutchouc, suprême garantie de sa sinistre liberté. Mais bientôt, la vue de la chaussée, encombrée de véhicules et de trottoirs grouillants d'hommes et de femmes, l'affecta désagréablement. Il suivait une longue rue droite que peuplait une fraction seulement de l'immense multitude. À chaque pas, tout autour de lui, jusqu'aux limites même de l'horizon caché par les énormes bâtisses de briques, il sentait s'agiter la masse de l'humanité, dominatrice par sa multitude. Innombrables comme les sauterelles, laborieux comme des fourmis, insouciants comme une force naturelle, les hommes pullulaient, poussant de l'avant, aveugles, méthodiques, absorbés, impénétrables à la logique, aux sentiments, à la terreur aussi peut-être. Cette forme de doute était celle qu'il redoutait le plus, inaccessible à la peur. Souvent, au cours de ses promenades, quand il lui arrivait de sortir de lui-même, il cédait momentanément à cette défiance atroce et saine de l'humanité. Que faire si rien ne pouvait émouvoir les hommes? Ces moments-là, tous ceux qui ont pour ambition d'exercer un pouvoir direct sur leurs semblables, les artistes, les politiciens, les penseurs, les réformateurs, les saints, les connaissent. Sensibilité méprisable contre laquelle la solitude fortifie un caractère supérieur. Avec une sévère exultation, le professeur songea au refuge de sa chambre, avec son placard cadenassé, perdu dans un désert d'habitations sordides, ermitage du parfait anarchiste. Afin de parvenir plus vite au point où il trouverait son autobus, il quitta la rue populeuse et s'engagea dans une ruelle étroite et sombre, pavée de dalles. Des maisons basses, aux murs de briques, l'abordaient d'un côté, et leurs fenêtres sales avaient cet air éteint et morne de l'irrémédiable délabrement, coquilles vides attendant le démolisseur. De l'autre côté, la vie ne s'était pas encore retirée tout à fait. En face de l'unique bec de gaz, s'ouvrait l'antre d'un brocanteur, où, tout au fond d'un couloir ténébreux, serpentant à travers une bizarre forêt d'armoires et de pieds de table, la haute glace d'un trumeau luisait comme une mare sylvestre. Un misérable lit, voisinant avec deux chaises dépareillées, en occupait l'entrée. Un seul être humain, avec le professeur, avait emprunté la ruelle et s'avançait d'une marche souple et cadencée. Soudain, il ralentit le pas. « Ah ! » fit-il, et il se mit un peu de côté, l'œil attentif. Le professeur s'était arrêté avec un rapide demi-tour qui avait amené son épaule presque contre le mur. Il s'appuya légèrement de la main droite sur le dos du lit à vendre, laissant avec intention l'autre main au fond de sa poche. Et ses grosses lunettes rondes donnaient à sa figure maussade et imperturbable la ressemblance du hibou. On eût dit la rencontre de deux visiteurs dans l'escalier dérobé d'une maison joyeuse et habitée. Le robuste nouveau venu était sanglé dans un pardessus noir et tenait un parapluie. Son chapeau, qu'il portait en arrière, découvrait une bonne partie du front, très blanc dans l'ombre. Au fond des trous sombres de ses orbites, deux prunelles vigilantes scintillaient étrangement. De longues moustaches tombantes, couleur de blé mûr, encadraient le bloc quadrangulaire de son menton rasé. « Ce n'est pas vous que je cherche, » dit-il brièvement. Le professeur ne bougea pas. Les bruits divers de l'énorme ville leur parvenaient en un murmure grave et confus. Changeant de ton, l'inspecteur principal Heath, du service des affaires spéciales, demanda avec une simplicité moqueuse « Pas pressé de rentrer ?» Le chétif et minuscule facteur moral de destruction jouissait à part soi de la constatation de son prestige personnel. Ne tenait-il pas en échec cet homme chargé de la défense d'une société menacée? Plus heureux que Caligula, qui désirait que le Sénat romain n'eût qu'une seule tête pour la plus facile satisfaction de sa féroce cruauté, il trouvait représenter en ce seul homme toutes les forces qu'il défiait, la loi, la propriété, l'oppression, l'injustice. Il était face à face avec tous ses ennemis, et, ivresse suprême pour sa vanité, ce n'était pas lui qui tremblait. Il les tenait, inquiets devant lui, comme devant un danger terrifiant. Dans son fort intérieur, il savourait la joie de cette rencontre où s'affermissait sa supériorité sur les multitudes humaines. Cette rencontre n'était en effet ni désirée ni cherchée. L'inspecteur Heath avait eu une désagréable journée depuis le moment, vers les 11 heures du matin, où le service de la sûreté avait reçu le premier télégramme de Greenwich. Tout d'abord, cet attentat était assez vexant, survenant moins de 8 jours après l'affirmation donnée par lui à certains hauts fonctionnaires qu'il n'y avait à craindre aucune manifestation de la part des meneurs anarchistes. S'il s'était jamais cru certain de ce qu'il affirmait, ce fut cette fois-là. Conscient d'être l'impeccable expert de sa brigade, il s'était laissé aller à des commentaires qu'une vraie sagesse eût réprouvés. Mais l'inspecteur Heath n'était pas très sage, du moins dans le sens exact de ce mot. La vraie sagesse, qui n'est sûre de rien en ce monde de contradictions, l'aurait empêché d'atteindre la position qu'il occupait alors. Elle eût alarmé ses supérieurs et écarté ses chances d'avancement. Or, son avancement avait été très rapide. « Il n'en est pas un, monsieur, sur lequel nous ne puissions mettre la main à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Nous savons ce que fait chacun d'eux, heure par heure, » avait-il déclaré. Le haut fonctionnaire avait daigné sourire. Ses paroles étaient si évidemment celles que devait prononcer un agent jouissant de la réputation de l'inspecteur principal Heath que c'était un véritable plaisir de les entendre. Si sa sagesse eût été autre qu'une sagesse administrative, basé non sur la théorie mais sur l'expérience, il n'aurait pas manqué de réfléchir que, dans la trame étroite des relations entre policiers et conspirateurs, des solutions de continuité se produisent parfois, lacunes soudaines d'espace et de temps, où le sujet surveillé pied à pied est perdu de vue quelques heures, pendant lesquelles un incident plus ou moins fâcheux se place, généralement un attentat. Mais le haut fonctionnaire, jugeant les choses selon sa convenance personnelle, avait bien voulu sourire, et le souvenir de ce sourire était à présent fort désagréable à l'inspecteur, limier compétent en matière anarchiste. Ce n'était point là l'unique circonstance dont le souvenir troubla la sérénité coutumière de l'éminent spécialiste. Il y en avait une autre qui ne datait que du matin même. Mandé d'urgence au cabinet du commissaire adjoint, la pensée qu'il n'avait pas été capable de dissimuler son étonnement au communiqué des nouvelles reçues, était vexante au plus haut point. Il avait écarquillé les yeux et s'était écrié « Impossible !» s'attirant ainsi l'argument sans réplique d'un doigt impérieusement pointé vers le télégramme que le commissaire adjoint, après lecture à haute voix, venait de jeter sur le bureau. Se voir écrasé, pour ainsi dire, par le bout d'un index, était une expérience des plus pénibles et en outre fort préjudiciable. De plus, l'inspecteur Heath avait conscience de n'avoir pas amélioré la situation en ajoutant précipitamment « Ce que je puis vous dire dès à présent, c'est que la bande placée sous notre contrôle n'a rien à voir dans cette affaire. » Une réserve impénétrable eût été plus politique, il le sentait trop tard. Mais allez donc garder votre sang-froid devant des faits si déconcertants. Si ceux qui ne font pas partie de la bande s'en mêlaient maintenant, où s'arrêterait-on? Ces amateurs d'à côté étaient la plaie de la police, comme de bien d'autres métiers d'ailleurs. Le ton du commissaire adjoint avait été fort aigre, et le détective n'avait pas digéré ce ton. Aussi n'éprouva-t-il aucune envie de déjeuner. Se mettant aussitôt en campagne, il se rendit sur le lieu de l'attentat, où il avala une copieuse dose de brouillard humide et malsain. Puis il alla jusqu'à l'hôpital, et une fois ses investigations à Greenwich terminées, il avait perdu tout appétit. N'étant pas, comme les médecins, habitué à examiner de près les débris mutilés de ses semblables, il s'était trouvé fort incommodé du spectacle qui se révéla à lui lorsqu'il eut soulevé la toile imperméable jetée sur la table d'amphithéâtre. Une seconde toile recouvrait cette table, à la manière d'un tapis dont les coins, rabattus sur une sorte de monticule, couvraient un amas confus de lambeaux roussis et sanglants, image affreuse de ce qu'auraient pu être les apprêts de quelque festin de cannibale. Il lui fallut une fermeté peu commune pour ne pas se trouver mal à cette vue. L'inspecteur Heath, en gradé capable de remplir son service, tint bon, mais il resta bien une minute sans faire un pas pour s'approcher. Un agent de police local, en uniforme, débita avec une simplicité saugrenue, en lançant un regard oblique sur l'effroyable tas, « Il y est tout entier. Tous les morceaux sont là. » Ça n'a pas été un petit travail. Cet homme était arrivé le premier sur le lieu de l'attentat, et il avait aperçu, dit-il, à travers le brouillard, comme un éclair au ras du sol. Au moment de l'explosion, il causait avec le gardien de la porte de King William Street. Secoué d'abord des pieds à la tête, il avait couru, entre les arbres, dans la direction de l'observatoire. « Aussi vite que mes jambes pouvaient me porter », répéta-t-il à deux reprises. L'inspecteur Heath le laissa répéter et se pencha enfin sur la table, écœuré et horrifié, fouillant du regard le détail de ce répugnant amas qui semblait provenir à la fois d'un abattoir et d'une tanière de chiffonnier. « Vous vous êtes servi d'une pelle », observa-t-il en remarquant un peu de gravier fin, mêlé de morceaux d'écorce brunâtre et d'éclats de bois minces comme des aiguilles. « Il l'a bien fallu », expliqua l'agent avec la même simplicité. « J'ai envoyé un gardien me chercher une bêche. Quand il m'a vu racler le sol, il s'est appuyé le front contre un arbre, et il a été malade comme un chien. » L'inspecteur dut réprimer lui-même une désagréable sensation de nausée. La violente déflagration qui avait réduit ce corps à l'état de fragments sans nom lui inspirait un sentiment d'horreur, comme devant une impitoyable cruauté, bien que sa raison lui affirmât que l'effet avait été aussi prompt que l'éclair. L'inconnu, quel qu'il fût, était mort instantanément. Et pourtant, on avait peine à croire qu'un organisme humain eût pu être déchiqueté à ce point sans passer par les affres d'une inconcevable agonie. Et par cette sympathie de commisération qui est une forme de la peur, Heath, qui n'était pas physiologiste et encore moins métaphysicien, s'éleva au-dessus du concept ordinaire de temps. Il se rappela tout ce qu'il avait lu, dans des publications populaires, au sujet de rêves terrifiants qui se déroulent au moment du réveil. Les inexplicables mystères de la vie consciente angoissèrent le policier, qui finit par arriver à cette horrifiante notion que des âges de souffrance atroce et de torture mentale pouvaient s'enfermer entre deux clins d'œil successifs. Cependant, l'inspecteur continuait à examiner les lugubres débris, avec la physionomie placide et l'attention légèrement inquiète d'un client pauvre penché sur l'étal aux déchets, dans une boucherie, avec l'espoir d'y trouver de quoi préparer un festin peu dispendieux. En investigateur méthodique et expérimenté, qui ne méprise aucune chance d'information, il ne laissait pas de prêter l'oreille à la loquacité décousue de l'agent local. « Il avait les cheveux blonds », décrivait ce fonctionnaire. La vieille femme qui parlait au brigadier remarqua un jeune garçon qui sortait de la gare de Maze Hill et qui avait les cheveux blonds. Elle a vu deux hommes sortir de la gare après le départ du train montant, reprit-il lentement. Elle n'a pu dire s'ils étaient ensemble. Elle ne fit pas particulièrement attention au plus gros, mais l'autre, un garçon mince et blond, portait une boîte de vernis en fer blanc. « Vous connaissez cette femme ?» s'enquit à mi-voix l'inspecteur, les yeux toujours fixés sur la table. Il pressentait vaguement que l'enquête qui allait être faite ne donnerait aucune indication sérieuse, et que le défunt resterait inconnu. « Oui, elle est gouvernante chez un cabaretier retiré, et elle fréquente à l'occasion la chapelle de Park Place, » répondit l'agent avec importance. Il s'arrêta, lançant un regard furtif vers les tronçons sanguinolents. Puis, brusquement, il ajouta « Enfin, le voilà, c'est tout ce que j'en ai retrouvé. » Blond, mince. Ah oui, mince. Tenez, regardez ce pied. Ce sont les jambes que j'ai ramassées en premier, l'une après l'autre. Il était tellement éparpillé que je ne savais pas par où commencer. Le silence retomba sur ces mots. Un sourire de satisfaction traversa la ronde figure de l'agent. « Il a trébuché, » déclara-t-il, très formel. « Moi aussi, en courant, j'ai buté, et je me suis allongé la tête la première. Ces satanées racines ressortent de partout. Il a trébuché sur une racine et il est tombé. Et cette gamelle qu'il portait a dû éclater juste sous sa poitrine, à ce que je pense. » L'écho de ce mot inconnu, se répercutant à travers ses pensées les plus intimes, tourmentait considérablement l'inspecteur-chef. Curieux par profession, il aurait voulu, n'eût-ce été que pour sa propre gouverne, remonter jusqu'à l'origine mystérieuse de cette affaire. Fonctionnaire loyal, il souhaitait établir l'identité de cet inconnu pour justifier devant le public l'utilité de son service. Cette tâche, néanmoins, lui paraissait impossible. Le premier terme du problème était illisible, ne suggérait d'autre idée qu'une atroce sauvagerie. Surmontant sa répugnance, l'inspecteur Heath étendit la main et, sans conviction, par simple acquis de conscience, prit le moins souillé des lambeaux d'étoffe. C'était une étroite bande de velours à laquelle pendait un morceau triangulaire de drap gros bleu. Il le porta à ses yeux tandis que l'agent de police poursuivait son intarissable commentaire. « Un col de velours. C'est drôle que la vieille femme ait remarqué le col de velours. Un pardessus bleu foncé avec un col de velours, nous a-t-elle dit. C'est bien celui qu'elle a vu, il n'y a pas d'erreur. Et tout est là, au grand complet, ce col de velours et le reste. Je ne pense pas avoir laissé le moindre morceau, fût-il plus petit qu'un timbre-poste. » À ce moment, l'inspecteur cessa d'écouter le verpillage de l'agent. Il se dirigea vers l'une des fenêtres pour mieux voir, et sa figure détournée refléta tout à coup un intérêt intense, tandis qu'il examinait avec soin le triangle de drap. D'une brusque secousse, il le détacha, le glissa dans sa poche, et seulement alors refit face à l'agent. Puis, lançant sur la table le col de velours, « Recouvrez cela, » ordonna-t-il brièvement, sans plus regarder. Et il sortit en hâte, emportant son larcin. Un tram partait dans la direction de Londres, et Heath, seul, dans un compartiment de troisième classe, put réfléchir à son aise. Ce bout de drap roussi avait une inestimable valeur, et l'inspecteur ne pouvait se défendre d'un certain étonnement devant la façon toute fortuite dont il était tombé en sa possession. Le destin lui avait, pour ainsi dire, mis dans la main le fil conducteur. Imitant en cela la plupart des âmes dont l'ambition consiste à vouloir commander les événements, il se prit à douter de cette réussite aussi gratuite qu'accidentelle, précisément parce qu'elle paraissait s'imposer à lui. La valeur pratique du succès dépend beaucoup du point de vue où l'on se place. Mais le destin n'a aucun point de vue. Il n'a aucune discrétion. Heath ne considérait déjà plus comme éminemment désirable d'établir publiquement l'identité de l'individu qui s'était ce matin-là si complètement anéanti. De plus, il ne se sentait pas du tout certain de l'angle sous lequel son administration envisagerait les faits. Une administration est, aux yeux de ceux qu'elle emploie, une personnalité complexe, possédant ses idées propres et même ses marottes. Elle se repose sur le dévouement loyal de ses employés, et la loyauté dévouée de l'employé de confiance se mitige à un certain degré d'une sorte de mépris affectueux. Grâce à une heureuse disposition de la nature, nul, comme chacun sait, n'est un héros pour son valet de chambre, sans quoi les héros risqueraient fort d'avoir à brosser eux-mêmes leurs habits. Selon la vie intime de son personnel, l'administration n'en sait jamais autant que le moindre de ses employés. En sa qualité d'organe impassible, elle ne peut être instruite de tout. En savoir trop nuirait à la bonne gestion de ses affaires. Quand l'inspecteur Heath descendit du train, son état d'esprit, bien que totalement éloigné de toute intention déloyale, n'était pas cependant exempt de cette méfiance jalouse qui s'insinue si souvent dans l'attachement le plus dévoué, qu'il s'adresse à une femme ou à une institution. C'est alors que l'estomac vide et le cœur encore soulevé par ce qu'il avait vu, il fit la rencontre du professeur. Dans ces conditions qui, chez un homme sain à l'état normal, prédisposent déjà à l'irascibilité, la rencontre lui fut particulièrement désagréable. Au début de sa carrière, l'inspecteur Heath avait été surtout chargé de sérieuses affaires de vol. C'est dans cette branche qu'il conquit ses galons, et il lui gardait tout naturellement un souvenir sympathique, voire même un sentiment affectueux. Le vol n'était pas une pure absurdité. C'était une forme du caractère industrieux de l'homme, forme pervertie, il est vrai, mais néanmoins une industrie rationnelle. C'était un labeur autant que celui du potier, du mineur, du laboureur ou du repasseur de couteaux. À cette différence près que les risques ne consistaient pas pour le voleur en ankylose, empoisonnement par le plomb, coups de grisou, etc., mais pouvaient se résumer en un nombre variable d'années de prison. L'inspecteur Heath, sans nul doute, savait apprécier toute la différence qui existe entre le crime et la vertu. Mais les voleurs qu'il avait traqués n'étaient pas incapables non plus de ce discernement. Ils se soumettaient avec une certaine résignation au sévère verdict d'une moralité familière à l'inspecteur et n'en contestaient point la justice. On pouvait voir en eux des concitoyens qui, par suite d'une éducation imparfaite, avaient mal tourné. Avec cette réserve, ils comprenaient la mentalité du cambrioleur parce que, somme toute, l'esprit et les instincts d'un voleur sont, au fond, les mêmes que l'esprit et les instincts d'un policier. L'esprit de l'inspecteur Heath était inaccessible aux idées de révolte, et ses cambrioleurs n'étaient pas des rebelles. Arrêté à 6 pas de l'anarchiste baptisé du sobriquet de professeur, Heath eut une pensée de regret à l'adresse du monde des voleurs. Ils étaient sains, eux. Ils travaillaient dans un but normal, quoique condamnable, sans idéal morbide ni haines incompréhensibles, et s'inclinant devant les autorités constituées. Ayant ainsi rendu hommage aux éléments réguliers qui composent la société, car l'idée du vol lui paraissait aussi régulière que l'idée de propriété, l'inspecteur Heath se reprocha furieusement de s'être arrêté, d'avoir pris la parole, et même d'être passé par cette ruelle pour raccourcir son chemin. Et il répéta de sa grosse voix autoritaire, à laquelle, en la modérant, il donnait un ton comminatoire, « Ce n'est pas vous qu'on recherche, je vous assure. » L'anarchiste ne broncha pas. Un rire sarcastique lui découvrait les dents jusqu'aux gencives. Mais il restait muet. Si bien que l'inspecteur fut amené à ajouter, malgré les sagaces avertissements du bon sens, « Pas encore. Si j'avais besoin de vous, je saurais où vous trouver. » C'étaient là les vrais termes à employer. Exactement dans la tradition et dans la note qui convenait à un fonctionnaire de la police s'adressant à l'un de ses clients. Mais la réception qui leur fut faite sortait de toute tradition et de toute convenance. Elle était outrageante. La petite silhouette falote parla enfin. Il y a de fortes chances, si vous tentez le coup, pour que les journaux du lendemain vous consacrent une excellente notice nécrologique, ce qui vous serait infiniment précieux, car je suppose que vous connaissez le genre de boniment qui s'imprime pour ces circonstances. Mais vous êtes exposé au désagrément d'être inhumé avec moi. Encore que vos amis, j'imagine, tenteraient quelques efforts pour procéder au triage de nos restes. Certes, l'inspecteur Heath méprisait l'état d'esprit qui dictait de pareils discours, et pourtant ces atroces allusions firent effet sur lui. Il avait trop de clairvoyance, ses informations étaient trop précises, pour qu'il pût se borner à voir là des vantardises oiseuses. Pourtant, il était homme aussi. Il ne pouvait laisser passer de telles paroles sans les relever. « Des balivernes bonnes pour effrayer les enfants, » fit-il. « Je finirai bien par vous pincer. » C'était dit sur un ton parfait, sans mépris, très doucement, presque gravement. « Sans doute, » riposta l'autre, « mais, croyez-moi, rien ne vaut le moment présent. Pour qui possède de véritables convictions, l'occasion est belle de faire le sacrifice de sa personne. Vous n'en trouverez pas de plus favorable. Pas un chat. Nous sommes seuls avec ces vieilles baraques condamnées qui deviendrait un beau tas de briques à l'endroit même où vous êtes. Jamais, pour me prendre, il n'en coûtera aussi peu aux existences et à la propriété qui vous payent pour les protéger. » Vous ne savez pas à qui vous parlez, répliqua l'autre avec fermeté. Si j'avais l'intention de vous mettre la main au collet en ce moment, je ne vaudrais pas mieux que vous. Ah, ce ne serait pas de jeu, hein? Soyez certain que c'est nous qui aurons finalement le dessus. Peut-être sera-t-on obligé de persuader au public qu'il est nécessaire d'abattre certains d'entre vous à coups de revolver comme des chiens enragés. C'est alors que nous ouvrirons la chasse. Mais du diable, si je sais quel jeu vous jouez, vous autres. Et je crois que vous ne le savez pas vous-même, et vous n'y gagnez rien. En attendant, c'est vous qui y gagnez, et facilement, certes. Je ne parle pas de votre salaire, mais vous vous êtes créé une réputation à ne rien comprendre au but que nous poursuivons. Quel est-il, ce but? Sans qu'il l'inspecteur, avec une hâte dédaigneuse, comme un homme pressé qui s'aperçoit qu'il perd son temps. Le parfait anarchiste répondit par un sourire qui ne sépara pas ses lèvres pincées et incolores, et le policier célèbre éprouva un sentiment de supériorité qui l'incita à lever le doigt en un geste d'avertissement. « Lâchez-le, ce but, quel qu'il soit, » reprit-il sur un ton d'exhortation, un peu moins indulgent peut-être que s'il eût eu la condescendance de donner un bon conseil à quelque filou de renom. « Renoncez-y, vous verrez que nous sommes trop nombreux pour vous. » Le sourire figé sur les lèvres du professeur s'atténua comme si l'ironie qui le provoquait perdait de son assurance. L'inspecteur poursuivit. « Vous ne me croyez pas, hein? Eh bien, vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Nous sommes les plus nombreux, et en tout cas, vous vous y prenez mal. Vous ne réussissez jamais qu'à faire du gâchis. Allons donc, si les cambrioleurs ne pratiquaient pas mieux leur métier, ils crèveraient de faim. » L'allusion à une invincible multitude derrière le policier souleva la sombre indignation du professeur. Il n'avait plus son sourire énigmatique et narquois. La résistance des masses et leur inattaquable force d'inertie étaient l'obsession de sa sinistre solitude. Ses lèvres tremblèrent pendant quelques secondes, avant qu'il parvint à articuler d'une voix étranglée « J'accomplis ma besogne mieux que vous ne faites la vôtre. » « Ça suffit pour cette fois, » interrompit l'inspecteur-chef avec brusquerie, ce qui provoqua un éclat de rire sardonique du professeur. Ricanant encore, il s'éloigna de l'étroit passage pour se mêler au mouvement de la grande artère. Il marchait, misérable et morne, de l'allure lasse du vagabond qui chemine, étape après étape, indifférent à la pluie et au soleil, lugubrement impassible devant les aspects du ciel et de la terre. Après l'avoir suivi un moment du regard, Heath partit de son côté, du pas vif et décidé de l'homme qui ne se soucie pas des inclémences du temps, mais a conscience de remplir ici-bas une mission autorisée et d'être le soutien moral de ses concitoyens. Les habitants de l'immense cité, la population de tout le pays, et même les millions d'êtres dont les légions se débattent sur le reste de la planète, étaient de son côté jusqu'aux voleurs et aux mendiants. Oui, les voleurs eux-mêmes étaient avec lui dans l'œuvre qu'il poursuivait en ce moment. Et le sentiment que son activité recevait l'approbation universelle l'encouragea à s'attaquer fermement aux difficultés présentes. Celle qui se posait avant tout était de regagner la confiance du commissaire adjoint, son supérieur direct, et de reprendre l'ascendant sur lui, ce perpétuel problème des fidèles et loyaux fonctionnaires. La surveillance des anarchistes lui donnait un caractère particulier, mais rien de plus. À vrai dire, l'inspecteur-chef Heath n'avait qu'une piètre idée de l'anarchie. Il n'y attachait aucune importance exagérée et ne put jamais se résoudre à la considérer sérieusement. Il n'y voyait qu'une sorte de dérèglement qui n'avait même pas l'excuse de l'ivresse, laquelle implique au moins une certaine débonnairité et un aimable penchant à la jovialité. En tant que criminel, les anarchistes ne relevaient distinctement d'aucune classe, et se remémorant le professeur, l'inspecteur, sans ralentir son allure cadencée, marmonna entre ses dents « Détraqué !» Capturer des voleurs était une toute autre affaire. Il y fallait ce sang-froid qu'exigent toutes les formes de sport où le meilleur athlète l'emporte, d'après des règles parfaitement compréhensibles. Avec les anarchistes, il n'y avait pas de règles, ce qui offusquait grandement l'inspecteur-chef. Tout cela n'était que sottise, mais cette sottise surexcitait l'opinion publique, inquiétait les personnes haut placées et touchait par certains points aux relations internationales. Un mépris implacable endurcit les traits de l'inspecteur-chef tandis qu'il poursuivait sa route. Il se rappelait, un à un, les anarchistes de son troupeau. Aucun d'entre eux n'avait la moitié de la crânerie que possédait tel ou tel cambrioleur qu'il aurait pu nommer. Pas la moitié, pas un dixième. À la direction, il fut tout de suite introduit auprès du commissaire adjoint, qu'il trouva la plume à la main, penché sur un grand bureau encombré de paperasses, devant un monumental encrier double en bronze et en cristal. Des tubes acoustiques, tels des serpents accrochés par la tête, pendaient derrière son fauteuil, et leurs crocs béants semblaient prêts à lui mordre les coudes. Sans changer d'attitude, il leva lentement les yeux aux paupières plus noires que le reste de sa figure et chiffonnait le petit dride. Les rapports étaient arrivés. Les faits et gestes de tous les anarchistes surveillés y étaient exactement relatés, dit-il. Puis il mit un rapide paraphe au bas de deux feuilles volantes et posa sa plume. Après quoi, se carrant dans son fauteuil, il fixa d'un regard interrogateur son réputé subalterne. L'inspecteur, déférent mais impénétrable, soutint tranquillement ce regard. « Je crois bien que vous aviez raison de présumer que les anarchistes de Londres n'ont rien à voir en ceci, » commença enfin le chef. « J'apprécie hautement l'excellente surveillance de vos agents. D'un autre côté, aux yeux du public, cette constatation équivaut à un aveu d'ignorance de notre part. » Le commissaire adjoint parlait avec une sage lenteur. Il choisissait chacune de ses paroles avant de les mettre, comme si elles eussent été les pierres du guet qui l'aiderait à franchir le ruisseau de l'erreur. « À moins que vous n'ayez rapporté de Greenwich quelque indice, » ajouta-t-il après un temps. L'inspecteur principal entama aussitôt le récit ponctuel et positif de ses investigations. Déplaçant légèrement son siège, le chef croisa ses jambes maigres et, s'appuyant sur un coude, abrita ses yeux de la main. Sa pose attentive avait une sorte de grâce anguleuse et triste. Et quand, à la fin du récit, il inclina sa tête aux cheveux d'un noir d'ébène, des reflets d'argent poli s'y ajoutèrent des deux côtés. L'inspecteur principal attendait. Il avait l'air de retourner dans son esprit tous les détails qu'il venait de relater, mais en réalité, il pesait la question de savoir s'il ajouterait autre chose. Le commissaire coupa court à ses hésitations. « Croyez-vous qu'ils étaient deux ? » demanda-t-il sans découvrir ses yeux. « C'était plus que probable, selon l'inspecteur. » À son avis, les deux individus devaient s'être séparés à 100 mètres environ des murs de l'observatoire. L'un d'eux avait dû s'éloigner rapidement sans être vu, à la faveur du brouillard. Après avoir escorté son complice jusqu'au lieu de l'explosion, il l'avait laissé faire le coup tout seul. Étant donné l'intervalle de temps depuis le moment où la vieille femme les vit tous deux sortir de la gare de Maze Hill, jusqu'à celui où l'explosion s'était fait entendre, il y avait lieu de croire que l'autre était déjà à la station de Greenwich Park, où il s'apprêtait à reprendre le premier train, à l'instant même où son camarade se faisait sauter de si épouvantable façon. « Très mutilé, n'est-ce pas ? » fit le commissaire à l'ombre de sa main. En quelques mots imagés, l'inspecteur dépeignit l'état des débris. « Le jury du coroner aura du plaisir, » ajouta-t-il d'un air lugubre. Le commissaire découvrit ses yeux. « Et nous n'aurons aucune indication à lui fournir, » remarqua-t-il languissamment. Levant la tête, il considéra quelque temps en silence l'attitude dégagée de son inspecteur principal. Le commissaire était sans illusion. Il savait qu'un service est à la merci des subordonnés, lesquels ont leur façon particulière de comprendre la loyauté. C'était dans une colonie des tropiques qu'il avait fait ses débuts. Là-bas, il aimait son travail, du vrai travail de police. Il avait réussi à traquer et à disperser diverses sociétés secrètes qui exerçaient une influence désastreuse parmi les indigènes. Puis, au cours d'un long congé, passé en Angleterre, il se maria assez précipitamment. Ce fut une bonne affaire au point de vue mondain, mais sa femme se fit, par oui dire, une opinion défavorable sur le climat colonial. D'autre part, elle avait des relations très influentes. C'était un excellent mariage. Pourtant, ses fonctions actuelles ne lui plaisaient pas. Il se sentait dépendant de trop de subordonnés en même temps que de trop de chefs. La présence immédiate de ce phénomène étrange et impressionnable qu'on appelle l'opinion publique contrariait son humeur et l'alarmait par sa nature irrationnelle. Sans doute, il s'en exagérait le pouvoir bienfaisant et malfaisant, malfaisant surtout. De plus, l'âpre vent d'est des printemps anglais, dont s'accommodait si bien sa femme, augmentait sa défiance des mobiles qui font agir les hommes et de l'efficacité de leur organisation. l'inanité de sa tâche bureaucratique lui paraissait bien plus effroyable par ce temps si fatigant pour son foie malade. Il se leva, déployant toute sa force, et d'un pas remarquablement pesant pour un homme si mince, il s'approcha de la fenêtre. Les carreaux étaient striés de gouttes de pluie, et la petite rue lui apparut trempée et vide, comme si un déluge l'avait tout à coup balayée. C'était vraiment une journée maussade, inaugurée par un épais brouillard qui se fondait maintenant en une pluie froide. La lueur tremblotante des becs de gaz se dissolvait dans l'atmosphère noyée, et les orgueilleuses prétentions de l'humanité, victimes passives de ce temps odieux, semblaient dignes de mépris, d'étonnement et de pitié. « Horrible, horrible !» pensa le commissaire, le front collé à la vitre. « Voilà 10 jours qu'il fait ce temps-là. Non, 15 jours. 15 jours !» Il cessa entièrement de penser. Ce vide complet de son cerveau dura bien 3 secondes. Puis il laissa tomber, par acquis de conscience. « Avez-vous commencé l'enquête pour suivre la trace de l'autre individu dans les 2 directions de la ligne ?» Il ne doutait pas que tout le nécessaire n'eût été fait. L'inspecteur connaissait à fond le métier de la chasse à l'homme, et d'ailleurs c'était l'alphabet du métier. Pas un débutant n'y eût manqué. Quelques questions au receveur des billets et au facteur des 2 petites gares fourniraient de nouveaux renseignements sur l'extérieur des 2 inconnus. L'inspection des billets révélerait tout de suite d'où ils venaient ce matin-là. C'était élémentaire, et on avait pu négliger ces démarches. En effet, l'inspecteur répondit que les interrogatoires avaient été faits aussitôt après la déposition de la vieille femme, et il cita le nom d'une station en ajoutant « C'est assurément là qu'ils avaient pris le train ». L'employé qui recevait les billets à Maze Hill se rappelle avoir vu passer 2 voyageurs répondant au signalement donné. Il les prit pour 2 artisans au-dessus du vulgaire, des peintres d'enseigne ou des décorateurs. Le gros descendit le premier d'un compartiment de 3e classe situé à la queue du train. Il tenait une boîte en fer blanc qu'une fois sur le quai, il donna à porter à un jeune homme blond qui le suivait. Tout cela cadre exactement avec ce que la vieille femme a raconté à l'agent de police de Greenwich. Sans se détourner de la fenêtre, le commissaire formula un doute au sujet de la part que l'on faisait jouer à ces 2 hommes dans l'attentat. Toute l'hypothèse s'échafaudait sur les raconteurs d'une vieille femme qui avait failli être renversée par un personnage pressé. C'était en réalité un témoignage peu solide, à moins qu'on acceptât l'hypothèse d'une soudaine inspiration, ce qui n'était guère admissible. « Franchement, voyons, croyez-vous qu'elle ait reçu une inspiration du ciel ?» s'enquit-il, avec une ironie grave, continuant à tourner le dos, comme fasciné par la contemplation des silhouettes colossales de la ville à demi perdue dans les ténèbres. Il ne bougea pas davantage en entendant le mot « providentiel » proféré à mi-voix par son subordonné, dont le nom, mentionné parfois dans les gazettes, était familier au grand public comme celui d'un de ses défenseurs actifs et zélés. L'inspecteur principal Heath éleva un peu la voix. « J'ai parfaitement distingué des lamelles et des fragments de fer blanc, ce qui corrobore, et les individus venaient de cette petite gare de campagne », pensa tout haut le commissaire incrédule. C'était, lui expliqua l'inspecteur, le nom que portaient 2 des 3 billets reçus à Maze Hill à la descente de ce train. Le 3e voyageur était un camelot de Gravesend, bien connu du personnel de la gare. L'inspecteur prit pour donner cette indication un ton définitif, mêlé de quelques mauvaises humeurs, comme font les bons employés ayant conscience de leur fidélité et de la valeur de leurs loyaux services. Et le commissaire adjoint ne quittait toujours pas la contemplation du brouillard extérieur, vaste comme un océan. « 2 anarchistes étrangers, venir de cet endroit, » fit-il, comme s'adressant à la fenêtre. « C'est presque inconcevable. »« Oui, monsieur, mais ce le serait davantage si Michaelis ne villégiaturait pas dans un cottage des alentours. » Au nom de Michaelis, tombant à l'improviste au milieu de cette ennuyeuse affaire, le commissaire s'arracha brusquement à l'image agréable de sa partie de whist quotidienne au cercle. C'était l'habitude la plus douce de son existence qui lui permettait, sans le secours ou l'obstacle d'aucun subalterne, de déployer les ressources généralement heureuses de son adresse. Chaque jour, de 5 à 7, avant de revenir dîner chez lui, il jouait à son cercle, et il oubliait, pendant ces 2 heures, tout ce qu'il y avait de pénible dans la vie, comme si le jeu eût été la drogue bienfaisante capable d'endormir les angoisses d'une âme déçue et tourmentée. Il avait pour partenaire le directeur d'une revue en vogue, mélancoliquement facétieux. Un avocat d'un certain âge, toujours silencieux, avec de petits yeux pétillants de malice, et un vieux colonel, homme simple, à la mine martiale, aux mains nerveuses et brunes. Ces personnages n'étaient pour lui que des relations de cercle. Il ne les rencontrait jamais en dehors de la table de jeu. Mais tous trois paraissaient s'en approcher dans le même esprit. Compagnons de misère, ils semblaient y trouver un remède passager aux maux secrets de l'existence. Et chaque jour, alors que le soleil déclinait au-dessus des innombrables toits de la capitale, une joie impatiente et douce, comme un élan de sincère et profonde amitié, venait alléger le fardeau professionnel du commissaire adjoint. Brusquement, avec une sorte de déchirement physique, il dut s'arracher à cette aimable sensation, que remplaça un intérêt imprévu dans son œuvre de protection sociale, une sorte d'intérêt assez incohérent, dont la meilleure définition serait une soudaine et vigilante méfiance de l'arme qu'il avait en main.